La Corogne, mars 2021. L'appel au service d'urgence est arrivé exactement à minuit. Incendie dans un immeuble résidentiel sur la rue Paseo de Los Puentes. 7 minutes plus tard, les pompiers étaient déjà sur place. L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais il est immédiatement devenu évident que ce n'était pas une intervention ordinaire. En examinant les dégâts, l'un des pompiers remarque un détail étrange. Le panneau arrière d'une vieille armoire, recouvert de contreplaqué, bouge. L'électricien, appelé pour évaluer les dommages, retire prudemment le panneau et aperçoit soudain une petite main. La seconde suivante, quelqu'un de la taille d'un enfant de 3 ans sort du compartiment caché. Plus tard, on découvrira que l'âge est 2 fois plus élevé. La taille, seulement 86 cm, le poids, à peine plus de 12 kg. Silence. Personne ne comprend comment cela a pu se produire au centre d'une grande ville espagnole, dans un appartement ordinaire, sous l'attention vigilante des voisins et des services sociaux. Comment cette personne est-elle restée inaperçue pendant 6 années entières? Les premières heures après l'incendie donnent à l'enquête très peu d'informations et un nombre énorme de questions. Les policiers, inspectant l'appartement, trouvent des dizaines de factures impayées et d'avis de dette, tous au nom d'une femme locataire. Dans les documents, il n'y a aucune mention d'une autre personne. Il n'y a pas de vêtements ou de jouets dans l'appartement. Aucun signe qui indiquerait la présence de quelqu'un d'autre que la locataire elle-même. L'un des voisins se souviendra plus tard aux enquêteurs qu'environ 4 ans auparavant, en 2017, il avait entendu plusieurs fois des pleurs d'enfants à travers le mur. Cela ne lui avait pas semblé étrange à l'époque. Mais les pleurs avaient trop de brusquement cessé. Un long et inquiétant silence s'était installé, auquel les voisins s'étaient rapidement habitués. L'incendie lui-même avait été causé par un court-circuit dans un vieux câble qui passait derrière l'armoire. Mais c'est précisément cela qui a conduit à la découverte de la niche secrète, aménagée, dans l'armoire. Quelqu'un avait spécialement équipé cet espace étroit d'un panneau de contreplaqué. À l'intérieur de l'armoire, les enquêteurs trouvent des preuves qu'une personne y a passé un temps considérable. Les murs sont tachés de traces de mains sur le sol et les murs des traces de présence. Tout indique qu'il était pratiquement impossible d'en sortir de manière autonome. L'odeur à l'intérieur parle d'elle-même. C'était un lieu de séjour permanent. La police identifie rapidement 2 suspects possibles. La première est la locataire elle-même. La femme vivait dans cet appartement depuis longtemps, menait une vie recluse, communiquait à peine avec les voisins. Il n'y avait jamais eu de plaintes, de réclamations officielles ou de problèmes avec les services sociaux. Lors du premier interrogatoire après l'incendie, elle semble absolument calme, nie toute connaissance de ce qui se passe et affirme qu'elle vivait seule. Ses réponses malheureusement sont égales et monotones. Les policiers sont sceptiques, mais ils n'ont pas de motif formel pour la détenir. Le second suspect est un homme qui visitait régulièrement l'appartement la nuit. On l'appelle simplement « le visiteur nocturne ». Aucun des voisins n'a clairement vu son visage. Personne ne connaît son nom. Le visiteur apparaissait tard le soir, partait aux premières heures du matin, essayant de ne pas croiser les autres résidents. La nuit de l'incendie, les caméras enregistrent un homme sortant de l'immeuble exactement 20 minutes avant le début du feu. Il tient un sac de taille moyenne, semblable à un sac de sport. Ses pas sont calmes, ses mouvements lents, rien ne trahit de nervosité ou de précipitation. La police avance immédiatement l'hypothèse que le visiteur nocturne aurait pu emporter quelque chose d'important de l'appartement, peut-être même quelque chose d'inanimé. Mais en l'espace d'une heure, les enquêteurs reçoivent une information qui réfute complètement leur première supposition. La petite personne de l'armoire est vivante. Cela signifie que le sac n'a probablement aucun rapport avec l'énigme principale. Qui est alors cet homme ? Et que faisait-il dans l'appartement peu avant l'incendie? Les questions restent sans réponse. Les enquêteurs examinent attentivement les enregistrements des caméras de surveillance. L'homme est sorti de la maison calmement, avec ce même sac de sport à la main. L'hypothèse selon laquelle il aurait pu emporter quelque chose lié à l'affaire semblait convaincante jusqu'au moment où la police a compris que l'objet principal de l'enquête était vivant et se trouvait en leur possession. Le sac contenait manifestement autre chose, sans lien direct avec cet incident. Peut-être des effets personnels ordinaires, peut-être des objets ménagers. Le sac lui-même devient progressivement pour la police une fausse piste, mais l'homme reste une figure nécessitant une attention particulière. Son implication dans l'affaire n'est pas encore confirmée, mais elle n'est pas non plus totalement exclue. Le dernier rapport des pompiers, joint au dossier, contient des détails importants. L'incendie a commencé à l'intérieur de l'armoire, plus précisément, derrière sa paroi arrière, où passait un vieux câblage électrique. Cela prouve que l'armoire n'était pas simplement un lieu de séjour temporaire, mais était utilisée constamment et sur une longue période. Les experts commencent à travailler. Les témoins sont convoqués à la police pour un interrogatoire plus approfondi. Les représentants officiels font des commentaires mesurés. Personne ne prononce les mots « horreur »,« cauchemar ». Seulement des faits secs. Le lieu de l'incident a été examiné. L'identité de la personne trouvée est en cours d'établissement. Les services sociaux refusent de commenter la situation, invoquant le secret de l'enquête. Les enquêteurs ne communiquent pas encore au public tous les détails qu'ils connaissent. L'Espagne apprend cette affaire dès le lendemain matin. Elle suscite la résonance publique non par les émotions, mais par l'effet brut et l'inexplicabilité de la situation elle-même. 6 ans derrière une porte en contreplaqué d'une vieille armoire au centre d'une grande ville, une circonstance à laquelle l'Espagne est confrontée pour la première fois. L'enquête ne fait que commencer. Quelques jours après l'incendie, la police arrête l'homme que les voisins avaient surnommé « le visiteur nocturne ». Il s'avère être Sergio M., un chômeur de 27 ans. Il était enregistré comme résident de l'appartement depuis 2016, mais n'avait aucun revenu officiel. Comment est-ce possible si le loyer doit être payé régulièrement? Les enquêteurs ont immédiatement noté un fait important. Jusqu'à ce jour, Sergio n'avait jamais attiré l'attention des forces de l'ordre. Il n'avait pas de casier judiciaire, d'amende ou même d'infraction administrative. Le profil d'une personne ordinaire qui s'est simplement trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, où y avait-il quelque chose de plus? C'est devenu un nouveau point d'attention pour l'enquête. Lors de l'examen initial du téléphone de Sergio, la police a rapidement trouvé plusieurs détails étranges, mais peu révélateurs pour l'instant. Déjà en 2016, il recherchait des choses étranges sur Internet. Par exemple, comment calmer des pleurs la nuit? Pourquoi de telles recherches étaient faites par une personne qui, comme il l'affirme, n'avait jamais eu de jeunes parents dans l'appartement? Plus tard, les recherches changent radicalement. Sergio commence à chercher activement des coupons de réduction pour les paris sportifs. Cela semble étrange étant donné qu'il n'a pas de revenus officiels. Comment prévoyait-il vivre des paris sportifs? C'est une question que l'enquête laisse pour l'instant sans réponse. Les témoignages des voisins ajoutent de nouveaux détails au tableau, mais ne simplifient pas l'affaire. Une des habitantes de l'immeuble informe la police qu'elle a vu Sergio plusieurs fois tard dans la nuit près de l'entrée, avec des sacs qui, à en juger par l'odeur et l'apparence, contenaient des restes de nourriture. Où emportait-il ces sacs? Pourquoi le faisait-il la nuit? Cela reste un mystère. Encore plus intéressante est l'information des services sociaux. Ces dernières années, il y a eu 2 inspections des services sociaux, et les 2 fois, c'est Sergio qui a ouvert la porte. Les inspecteurs n'ont rien remarqué de suspect. Le jeune homme était calme, convaincant, poli, et n'éveillait pas les soupçons. Pourquoi les services sociaux n'ont-ils rien découvert? Ce fait devient un élément supplémentaire du tableau complexe de l'enquête. Lors des interrogatoires, Sergio se comporte nerveusement, mais sans être désemparé. Il est irrité, mais contrôle ses paroles. À la question directe de savoir où se trouvait la personne de l'armoire pendant toutes ces années, Sergio donne une réponse qui semble d'abord tout à fait plausible. Elle vivait tout ce temps à la ferme de mon cousin en dehors de la ville. La réponse aurait pu être logique, si ce n'était les témoignages des voisins qui avaient entendu des pleurs dans cet appartement même en 2017. La police demande directement à Sergio comment expliquer alors les pleurs d'enfants qui résonnaient précisément derrière la porte de son appartement. Sa réponse semble étrange et maladroite aux enquêteurs. Quoi ? Mais ça pouvait être la télévision. Je regarde beaucoup de films. Peut-être que les voisins ont cru entendre quelque chose. Il n'y a évidemment pas d'enregistrement des pleurs. L'enquête ne peut ni confirmer ni infirmer les paroles de Sergio, mais cette réponse semble faible et éveille les soupçons des policiers. Son alibi commence à paraître fragile, mais les preuves directes manquent encore. Sergio continue de se défendre, ne reconnaissant rien qui pourrait confirmer directement son lien avec la personne trouvée. À ce stade, la police décide de vérifier plus minutieusement toutes les dernières recherches effectuées depuis le téléphone de Sergio. L'une des recherches récentes sonne particulièrement alarmante. En mars 2021, peu avant l'incendie, Sergio cherchait à louer une camionnette. L'enquête émet immédiatement l'hypothèse que le suspect prévoyait d'emporter quelque chose, peut-être sans laisser de traces de vie. Une telle version semble plausible. Il aurait été logique d'essayer de dissimuler les preuves après l'incendie en simulant un accident. Mais une vérification plus détaillée révèle une nuance importante. La société de location de voitures Tastoti confirme à la police. Sergio s'était effectivement adressé à eux, avait rempli un formulaire et avait même réservé provisoirement un véhicule. Mais il a ensuite brusquement annulé la commande. Les raisons de l'annulation sont inconnues. Il n'a jamais reçu la camionnette. Ce fait fait immédiatement entrer l'enquête dans un nouveau cycle de doutes. Le suspect avait-il réellement l'intention de cacher quelque chose ? Ou s'agissait-il d'une recherche fortuite, sans rapport avec l'enquête ? Dans ce contexte, les enquêteurs reçoivent les résultats de l'analyse ADN d'un détail inhabituel trouvé dans l'appartement. Une bouteille en plastique d'eau sucrée, placée près de l'armoire. Logiquement, on pourrait s'attendre à y trouver les traces de Sergio. Mais le rapport surprend tout le monde. Sur la bouteille sont clairement identifiées les empreintes de la locataire elle-même et il n'y a aucune trace de Sergio. Cela change à nouveau le focus de l'enquête. Maintenant, la figure principale sur laquelle se portent les soupçons est précisément la propriétaire de l'appartement. Les enquêteurs changent immédiatement de stratégie. Tandis que Sergio reste dans leur champ de vision, son rôle ne paraît plus aussi évident qu'il y a quelques jours. Il est irrité, mais ne ressemble pas à un homme effrayé qui risque une accusation réelle. Son comportement traduit plus de nervosité que d'anxiété réelle. Sergio ne révèle pas tous les détails, mais il ne ressemble pas non plus à un criminel manifeste. L'enquête passe à une autre figure qui était jusqu'à présent plutôt dans l'ombre, à la mère de la personne qui a vécu des années dans l'armoire. C'est vers elle que se dirige maintenant le vecteur principal de l'enquête. Sergio reste pour l'instant sous surveillance, mais il est trop tôt pour porter des accusations contre lui. Peut-être a-t-il simplement été un participant passif à quelque chose de plus grand, encore peu clair pour la police. Les enquêteurs font une nouvelle note. Comprendre la personnalité de la propriétaire de l'appartement, son passé et ses motivations. Voilà maintenant la tâche prioritaire sur laquelle se concentre toute l'attention des forces de l'ordre espagnol. Tandis que la police s'éloigne prudemment de la figure de Sergio, le focus de l'enquête se déplace vers la mère de Lucia, trouvée dans l'armoire, une femme nommée Marta R. Elle vient à l'interrogatoire suivant préparé et apporte à l'inspecteur une liasse de photographies. Sur les clichés, sa fille Lucia est photographiée devant une petite maison rurale. Marta assure que c'est dans cette maison, chez son cousin, que Lucia aurait vécu ces dernières années. l'inspecteur examine attentivement les photographies et remarque immédiatement une étrangeté. Il n'y a pas de date sur les clichés, et la maison elle-même ne correspond pas à l'adresse indiquée dans les déclarations de Martha. On soupçonne que les photographies ne sont rien de plus qu'une tentative de détourner l'attention de l'enquête. Les experts criminalistiques confirment rapidement les doutes de l'inspecteur. Les photographies sont imprimées sur une imprimante à jet d'encre domestique ordinaire et les données numériques sur le lieu et l'heure de la prise de vue sont absentes. Tous les fichiers s'avèrent vides. Ce ne sont manifestement pas des photos originales. L'inspecteur décide de contacter directement le cousin de Martha, résidant à Lugo, pour vérifier les dires de la femme concernant le séjour de Lucia dans sa maison. La réponse du parent est brève et catégorique. Il signale que Lucia n'a jamais séjourné chez lui et qu'il n'a pas vu la fille depuis plusieurs années. Cela contredit totalement le récit de Martha et sape encore davantage sa version des faits. Simultanément, la police étudie les opérations financières de Martha. Elle recevait régulièrement des aides au logement de l'État. Cependant, depuis 2017, ses dépenses en électricité ont augmenté soudainement de 40%. La femme n'avait pas acheté de nouveaux appareils ménagers. Son mode de vie n'avait pas changé. Les enquêteurs commencent à soupçonner que quelqu'un se trouvait secrètement et constamment dans l'appartement, ce qui explique la forte augmentation des factures d'électricité. Lors de l'interrogatoire suivant, l'inspecteur pose à Martha des questions plus précises sur le suivi médical de sa fille. Où sont les attestations de vaccination de Lucia? Nous devons confirmer qu'elle était suivie régulièrement par un médecin. Martha répond calmement et avec assurance, comme une personne prête à de telles questions. Tous les documents étaient chez notre pédiatre familial, mais il est malheureusement décédé pendant la pandémie. L'enquêteur note la réponse, mais au bout d'un jour, la vérification montre que le médecin de famille dont parle Martha est en réalité vivant et continue à exercer. Le médecin confirme personnellement à la police que Lucia ne figurait pas parmi ses patients et qu'il ne l'a jamais examinée. La réponse de Martha s'avère à nouveau fausse et sape la confiance en ses déclarations. L'enquête commence à explorer une autre piste. Peut-être que les parents de Martha accueillaient temporairement Lucia selon un arrangement personnel. La version d'un possible échange ou transfert de la fille à d'autres personnes contre de l'argent ou pour des circonstances familiales est suspectée. Cependant, l'examen des comptes bancaires ne révèle aucun transfert d'argent suspect. Tous les parents interrogés par la police nient catégoriquement avoir jamais accueilli Lucia ou avoir eu des contacts avec elle ces dernières années. Cette piste est rapidement abandonnée et l'enquête revient à son point de départ. Dans le contexte de ces vérifications, un médecin local de quartier prend contact de façon inattendue. Il se souvient qu'en 2017, Martha est venue le voir pour demander un certificat médical pour un voyage à la mer au nom de sa fille. Elle n'avait pas amené Lucia ce jour-là, expliquant cela par l'état de santé médiocre de la fillette. Le médecin, ne voyant pas de raison de soupçonner quoi que ce soit, avait délivré un certificat sans examiner la patiente. Maintenant, cet épisode soulève de nouvelles questions pour l'enquête sur les motivations et les actions de Martha. L'enquête décide de franchir l'étape suivante. Les inspecteurs demandent officiellement le détail des appels téléphoniques de Martha des dernières années. Peut-être que l'analyse des conversations téléphoniques permettra de comprendre ce qui se cache derrière le calme et les actions peu claires de la femme. Jusqu'à présent, Martha se comporte de manière égale, calme, ne se perdant parfois que lors des questions précises des enquêteurs sur des dates et événements spécifiques. C'est précisément son calme et l'absence de motivations évidentes qui alertent le plus les inspecteurs, les poussant à aller plus loin dans leur tentative de résoudre cette histoire inhabituelle. Pendant que les inspecteurs attendent les résultats du détail des appels de Martha, un nouveau témoin apparaît de façon inattendue. L'électricien qui a travaillé dans l'appartement de Martha et Sergio, l'homme est venu lui-même à la police, visiblement conscient de la gravité de la situation. Il communique à l'inspecteur un détail important. Environ un an auparavant, Il avait déjà réparé le câblage exactement à l'endroit où l'incendie s'est produit maintenant. L'électricien se souvient clairement d'un détail. À l'époque, l'armoire était déjà solidement fixée au mur par de grands clous traversants. Mais pourquoi a-t-il gardé le silence jusqu'à présent et n'en a parlé que maintenant, lorsque l'histoire a reçu une large publicité ? L'enquête demande immédiatement confirmation des paroles de l'électricien. L'homme apporte des documents, parmi lesquels une facture de mai 2020. Les documents indiquent clairement « remplacement de prise derrière l'armoire ». Cela correspond à la description de l'actuel lieu de l'incendie. L'électricien explique calmement aux enquêteurs que pendant les travaux, il a effectivement entendu derrière l'armoire des bruits légers, comme des frôlements ou des grincements. Cependant, l'homme a alors pensé qu'il s'agissait de rongeurs domestiques ordinaires, des souris ou des rats. Il souligne qu'il n'a entendu aucune voix ou son humain distinct. La police vérifie les papiers et trouve dans les documents un détail important. L'acte des travaux effectués a été signé par nul autre que Sergio. C'est lui qui contrôlait alors le travail de l'électricien. Cela contredit sérieusement ce que Sergio a dit lors des interrogatoires précédents. Il affirmait alors qu'il ne savait rien de l'armoire et prétendait ne pas s'être occupé de la réparation de l'appartement du tout. Le nouveau témoignage de l'électricien montre clairement pour la première fois Sergio était directement lié à l'armoire bien avant l'incendie. L'enquêteur interroge l'électricien en détail, essayant de trouver des contradictions. « Êtes-vous sûr de n'avoir pas vu qui exactement se trouvait dans l'appartement ?» L'électricien répond calmement et brièvement. « Non, je n'ai vu personne. L'armoire était déjà fermement clouée au mur. Tous les clous étaient déjà en place. » Le client, Sergio, était très pressé. Il a dit simplement de fermer la prise et de partir aussi vite que possible. Les enquêteurs comparent ces paroles avec les déclarations que Sergio fait maintenant. Sergio affirme exactement le contraire. L'électricien a lui-même déplacé l'armoire. Je n'ai rien touché et je ne l'ai pas pressé. Il n'y a pas de correspondance dans les témoignages et cela devient un détail inquiétant supplémentaire. Cependant, les paroles de l'électricien semblent plus convaincantes à l'enquête. Il n'a manifestement pas d'intérêt personnel à protéger Sergio. Face à ces divergences, les enquêteurs envisagent une nouvelle version. L'électricien pourrait-il être un complice, aidant Martha et Sergio à cacher une personne dans l'armoire? C'est peut-être pour cela qu'il a gardé le silence si longtemps sur l'armoire clouée et les bruits étranges. La police effectue une vérification minutieuse de tous les déplacements de l'électricien au cours des 3 dernières années en utilisant les données du traceur GPS de sa voiture de travail. Les résultats de la vérification montrent, entre 2018 et 2020, l'électricien n'est apparu dans le quartier de la maison de Martha et Sergio qu'une seule fois, le jour même où il effectuait la commande de remplacement de la prise. Aucune autre visite qui pourrait indiquer une participation systématique à la vie de cette famille n'a été détectée. Les soupçons contre lui disparaissent progressivement. Il devient simplement un témoin fortuit, fournissant à l'enquête un détail important, mais rien de plus. Dans ce contexte, l'enquête obtient un autre fait important. En vérifiant les magasins de construction locaux, les opérateurs trouvent un enregistrement de la caméra de surveillance fait un jour avant cette visite de l'électricien en 2020. Sur l'enregistrement, on voit clairement Sergio acheter une grande feuille de contreplaqué. C'est ce même matériau qui a été utilisé pour renforcer l'armoire de l'intérieur, transformant un meuble ordinaire en une niche soigneusement camouflée. Cette découverte s'avère cruciale. Maintenant, l'enquête voit clairement que les actions de Sergio n'étaient pas fortuites ni spontanées. Il se préparait à l'avance à la visite de l'électricien et faisait sciemment tout son possible pour cacher ce qui se trouvait à l'intérieur de l'armoire. Le contreplaqué, les clous, l'armoire fixée à l'avance, tout indique que ce qui se passait ne pouvait pas être un hasard ou une solution temporaire. Le caractère systématique des actions de Martha et Sergio est confirmé. Les faits commencent enfin à s'assembler en un tableau cohérent. L'enquête dispose désormais de repères temporels précis. L'achat du contreplaqué la veille de la visite de l'électricien. La facture d'électricité fortement augmentée à partir de 2017. L'ignorance systématique des examens médicaux de Lucia. Les actes de travaux effectués signés par Sergio. Tous ces détails séparés commencent à s'unir, montrant un tableau clair de la façon dont Martha et Sergio ont agi méthodiquement et délibérément pendant une longue période. Les enquêteurs ne doutent plus qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un plan bien pensé qui a fonctionné pendant des années, restant inaperçu sous le nez des services sociaux et des voisins. L'enquête a duré un peu moins d'un an. Pendant toute cette période, la police a reconstitué pièce par pièce les événements qui se cachaient derrière la porte fermée de l'appartement à la Corogne. Lorsque l'affaire est arrivée devant le tribunal, la version de l'enquête a été définitivement confirmée. L'initiateur de l'isolement de Lucia était bien Sergio. Dans les documents du procès, il a directement déclaré « Elle pleurait constamment, cela dérangeait ». Ce sont précisément ces mots qui ont constitué la base de l'accusation. La femme, mère de Lucia, Martha, a pour sa part pleinement reconnu sa culpabilité. Elle a confirmé qu'elle avait accepté la décision de Sergio car elle craignait de le perdre et, par conséquent, de perdre les prestations sociales. Le tribunal a établi que Lucia avait passé en isolement au moins 1949 jours, presque 6 ans, inaperçue des services, des voisins et des autorités. Les enquêteurs ont entièrement reconstitué tous les moments clés de ce qui s'est passé. Par exemple, la forte augmentation des factures d'électricité à partir de 2017 avait maintenant une explication logique. Martha et Sergio laissaient assez par temps froid un radiateur allumé près de l'armoire. Cela expliquait l'augmentation des dépenses d'électricité qui n'avaient pas été remarquées par les services sociaux. Les photographies de Lucia devant la maison rurale que Martha avait essayé de faire passer pour des preuves que la fille vivait chez des parents se sont avérées être des contrefaçons. La femme n'imprimait pas les clichés à la maison comme le pensaient initialement les criminologues, mais dans un petit centre de copie locale. Pour cela, Martha utilisait des images stock aléatoires d'Internet, évitant délibérément les photographies contenant des dates ou des données sur la prise de vue. De cette façon, elle créait l'apparence du bien-être et de la normalité de la situation. L'affaire a également mis en lumière une erreur bureaucratique sérieuse commise par les services sociaux. Lors de la vérification de la version du séjour de Lucia chez le cousin à Lugo, les employés des services de protection de l'enfance se sont limités à une conversation téléphonique formelle. Une visite personnelle à l'adresse n'a jamais eu lieu, ce qui a permis à la situation de rester cachée pendant plusieurs années. Pendant la prononciation du verdict dans la salle d'audience, il y avait un silence absolu. Sergio était irrité et visiblement tendu. Après l'annonce de la peine, il s'est soudainement mis à parler fort, s'adressant plutôt non pas au tribunal, mais à tout le système de contrôle et de protection. Où étiez-vous pendant ces 6 ans? Pourquoi n'avez-vous rien remarqué? Le juge a brièvement coupé court à ses paroles, continuant calmement la procédure de prononciation de la décision. Le même jour, Martha, se trouvant en centre de détention préventive, a tenté de mettre fin à ses jours. La tentative s'est avérée infructueuse, et quelques heures plus tard, l'audience du tribunal a repris sans pause ni modification du calendrier. Les chiffres finaux de la sentence ont résonné clairement et sèchement. Sergio a reçu 25 ans d'emprisonnement. Martha, 11 ans. Les documents du tribunal soulignaient que les deux condamnés avaient agi délibérément et systématiquement, s'efforçant d'éviter la publicité et limitant au maximum tout contact de Lucia avec le monde extérieur. L'enquête n'a pas trouvé de circonstances atténuantes, malgré la tentative de Martha de se présenter comme victime de l'influence de Sergio. Aujourd'hui, Lucia vit dans une famille d'accueil près de Saint-Jacques-de-Compostelle. Selon les médecins, son état physique se stabilise progressivement. Le dernier rapport médical indique que dans un avenir proche, Lucia sera capable de se déplacer de façon autonome, sans appareils médicaux spéciaux. L'enquête judiciaire concernant les services sociaux de la Corogne est encore en phase préparatoire. La date de révision de l'affaire concernant la négligence des fonctionnaires et des travailleurs sociaux n'a toujours pas été officiellement fixée. Le système lui-même, qui a permis une telle erreur, n'a pas encore assumé de responsabilité.